Le passage que nous allons commenter se trouve dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 3, versets 1 à 6. En voici la lecture. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode prince de la Galilée, son frère Philippe prince du pays d'Iturée et de Traconitite, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Donc, je pense que la meilleure façon d'aborder ce texte, c'est de recourir aux quatre interprétations dites traditionnelles que nous a apprises l'Église dans toute sa tradition, notamment dans les premiers siècles, et dont le père et synthétiseur de cette méthode était Origène. Donc, c'est une façon de lire la Bible, hein, que je préconise sur mon site, avec l'interprétation dite historique ou littérale et les trois sens spirituels. Donc, façon de lire la Bible qui était très en vogue dans les premiers siècles, y compris dans le Nouveau Testament, pour relire l'Ancien Testament. Alors d'abord, je vous propose d'aborder le texte de manière un peu littérale et d'un point de vue historique. Ce qui nous surprend ici, pardon, c'est vraiment les indications très précises dont Luc prend soin de mettre dans son évangile. Et si on lit l'évangile de Luc au chapitre 1, il s'adresse au tout début à Théophile en lui disant qu'il a bien pris soin de faire une enquête soignée sur ce qui s'est passé à propos de Jésus. Et il redit la même chose un petit peu dans les Actes des Apôtres. Et c'est important de fixer notre attention sur ces détails où on voit que les gouvernants, les lieux sont mentionnés avec assez de précision, parce que c'est quelque chose qui peut nous montrer que la parole de Dieu dans l'Ancien Testament et l'Évangile ici dans le Nouveau Testament est fiable, tout comme les Actes des Apôtres, etc., sont des choses qui ont existé, des lieux qui ont existé. Et si on compare, disons, les quatre évangiles dits canoniques qui sont reconnus inspirés par les Églises, c'est-à-dire d'abord Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, si on compare ces évangiles avec des évangiles plus tardifs, dits apocryphes, parce qu'ils ont été écrits plusieurs siècles après la vie de Jésus, alors que tous les évangiles canoniques ont été écrits au premier siècle, c'est-à-dire le siècle où a vécu Jésus, il n'y a pas photo, on voit très bien que c'est du sérieux par rapport aux apocryphes qui sont plus là, hein, les évangiles faux, etc., qui sont plus là pour véhiculer des idées de sectes qui vivaient bien après Jésus que pour porter un témoignage de ce que les apôtres ont vu de la vie de Jésus. Et là, l'évangile de Luc en est un très bon exemple. C'est du sérieux, c'est du bâti sur le réel, le concret, avec des lieux, etc. Et ce n'est pas de longs, longs discours. Et même l'évangile de Jean, où il y a de longs discours, on est très surpris de l'exactitude des lieux mentionnés, des coutumes mentionnées, etc. Donc, c'est quelque chose à bien peser. Et ce qui est important ici dans cette interprétation, disons, cette lecture un petit peu historique, c'est de voir que Dieu, là déjà on interprète un petit peu, mais si Luc prend soin de bien situer les événements, c'est parce qu'il veut nous montrer, et après par la généalogie qu'il va donner de Jésus, il va même élargir ça à toute l'histoire du salut de l'humanité, mais il veut nous montrer, Luc, que Dieu s'est incarné dans un peuple, dans une région, sur notre terre. Dieu n'est pas en haut des cieux à nous regarder de loin, il est vraiment le Tout-Puissant, certes, mais aussi le Tout-Proche. C'est tout le sens de l'incarnation de Jésus. Donc Jésus vient vivre dans notre monde, dans le monde où il a vécu, dans un endroit précis, etc. Eh bien, ça pour notre vie, c'est important, parce que ça veut dire que rien de ce qui se passe dans notre vie n'est indifférent à Dieu. Et que Dieu, son désir par le Christ, c'est de s'incarner dans notre vie, de prendre racine dans notre vie. Parfois, on a des problèmes et tout ça, et on n'ose pas en parler à Dieu. Mais c'est une erreur, ça va contre l'esprit de l'Évangile ici, où on nous montre que ce qui se passe dans notre humanité intéresse Dieu. Ce qui se passe dans notre vie intéresse Dieu. Et c'est aussi une leçon de foi, parce que parfois nous avons l'impression que Dieu se désintéresse de ce qui nous arrive, de nos joies, de nos peines, surtout de nos peines. C'est là où vraiment c'est le plus aigu, quand on a l'impression que Dieu se désintéresse. Ben pas du tout, pas du tout. Tout intéresse Dieu, et Dieu veut vraiment avoir une place dans notre vie, et ce qui nous arrive l'intéresse. Alors parfois, effectivement, on a l'impression d'un Dieu qui est assez loin, mais lui faisons-nous la place qu'il veut avoir dans notre vie. Parce que Jésus veut se planter, comme il s'est planté au cœur de notre terre, il veut se planter au cœur de notre vie. Il veut avoir la place qui lui revient, c'est-à-dire la première, celle de l'ami par excellence, qui va justement éclairer toutes les facettes de notre vie et nous transformer dans notre vie la plus concrète et quotidienne. Eh bien, c'est ça la foi chrétienne. C'est cette relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ qui doit petit à petit gagner tous les aspects de notre vie. Et ça commence par faire connaissance de Jésus dans la prière, la lecture de sa parole. Et puis, petit à petit, eh bien, cette connaissance de Jésus, cette connaissance d'amitié, va forcément avoir une influence sur notre vie. Car si ce n'est pas le cas, c'est que alors Jésus n'a pas la place qui lui revient. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à préciser. Donc si, rien qu'en regardant les lieux et cette incarnation dans une époque précise, c'est un message déjà qui nous est lancé. Et puis si on regarde les noms, bon, je ne vais pas tous la signification, mais on voit que c'est un monde un peu bigarré. Vous avez beaucoup l'insistance sur le rocher, la solidité, Caïf, Traconidide, etc. Et puis vous avez d'un autre côté des noms qui se contredisent. Lysanias, qui veut dire ça veut dire qu'il chasse la tristesse. Et puis vous avez juste après qui est prince d'Abilène. Abilène, c'est le père du deuil, c'est l'inverse, etc. Vous avez Caïf, donc le rocher, même la dépression, le creuset, et puis Anne, c'est la grâce. Donc on voit ici quelque chose de bien bizarre, c'est que c'est un monde bigarré avec des noms qui parfois se contredisent, etc. Mais c'est un peu notre société. Notre société, d'ailleurs, même sur Jésus, elle dit tout et n'importe quoi, et tout est son contraire. Et puis, en général, si vous regardez un petit peu comment on est gouverné, des fois, on n'a pas toujours l'impression que nos dirigeants savent où ils vont. Ils naviguent à vue. Et c'est un petit peu aussi la foule. Les foules, les gens ont des phobies, ont des peurs. Et puis après, ils disent blanc un jour, ils disent noir un autre. Ces mouvements de foule. Eh bien, Jésus s'incarne dans ce monde. Et ce monde a besoin d'un guide parce que ce monde est complètement sans dessus dessous, complètement déboussolé. Et c'est dans ce monde que Jésus vient. C'est aussi dans notre vie, quand nous sommes parfois déboussolés, eh bien, Jésus vient s'incarner. Il veut nous donner un chemin. Et ce chemin, eh bien, ça va être, comme on va le voir, celui du désert, où Jean, c'est bien sûr Jean-Baptiste, qui signifie « don de Dieu », va prêcher, fils de Zacharie, qui veut dire « Dieu se souvient ». Vous voyez, ici aussi, nous avons un clin d'œil à l'Ancien Testament, Zacharie, Dieu se souvient, c'est un nom assez Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et vous avez Jean, c'est le Nouveau Testament, la grâce, etc. Donc, vous voyez, tout est imbriqué, et c'est dans cette préparation de Zacharie que vient Jean, ici, qui peut aussi symboliser le Christ, par la grâce et le don. Et puis, c'est cette grâce qui montre par Zacharie, Dieu se souvient, donc cette grâce qui est déjà préparée, le chemin est préparé, etc., qui a fait sujet d'un travail attentif de Dieu, cette grâce va surgir dans un monde déboussolé, etc., où les gens sont à la fois perdus d'œil et chassent la tristesse, etc. D'ailleurs, le fait que Lysanias, qui veut dire chasse la tristesse, soit aussi le prince d'Abilène, qui veut dire perdu d'œil, ça montre aussi que parfois, les gens veulent chasser leur tristesse d'une manière qui va les replonger encore plus dans la misère de leur vie. Eh bien, c'est dans ce monde, c'est aussi dans notre vie, dans cet état d'esprit, que Jésus veut faire son chemin et son lieu, et son habitation plutôt. Et alors, maintenant, je vous propose de passer à, disons, une interprétation. Je vais commencer par l'interprétation, disons, celle qu'on aborde d'habitude en dernier. C'est l'interprétation dite anagogique, centrée sur la fin des temps. Alors il y a l'interprétation par rapport à la vraie fin des temps et puis aussi à notre mort. Vous allez voir que ce texte prend un éclairage tout à fait intéressant à cette lumière. Mais peut-être qu'il faut d'abord, bien sûr, parler de l'interprétation, disons, qui est celle en fil rouge, qui est l'allégorie, c'est-à-dire voir le Christ et tout ce qui est préparatif du Christ dans un texte. Bon, j'ai déjà parlé de Jean, etc. Bon, il est évident ici que vous allez voir... Ce qui est très surprenant, c'est que le travail de Jean est un travail qui est fait dans la discrétion. Et bien ça, c'est l'image du travail du Christ qui n'a prêché que 3 ans, qui est né dans une petite bourgade à Bethléem, et puis qui habitait une autre petite bourgade, Nazareth. 30 ans de vie discrète, 3 ans de ministère, certes avec un certain impact, mais tout de même, c'est très limité à l'échelle de notre terre. Et bien, Jésus, c'est ce travail discret de Dieu. Dieu travaille discrètement mais efficacement dans le temps. Hein, il n'apparaît pas à tout le monde sur toute la terre, mais à un endroit précis. Et de là, eh bien, petit à petit, l'influence s'étend. C'est ce que dit Paul, d'ailleurs, en parlant du nouvel Adam, qui va répandre sa grâce pour contrecarrer le poison qui avait été, dans l'Épître aux Romains, hein, il le dit, qui avait été comme semé par la désobéissance de Adam, hein, de l'Adam le premier. Bon, c'est ce travail de la discrétion. Eh bien, ça, c'est nous rappelle le Christ. Et Jean, ici, est une préfiguration du Christ, parce que, finalement, son travail, c'est celui de Jésus. Mais revenons à l'interprétation dite anagogique, c'est-à-dire celle qui est centrée sur l'élévation, en grec. On va s'élever, si j'ose dire. Alors, voyez ici, ce qui est très, très surprenant, c'est que vous avez les grandes ce monde. Hein. On commence d'ailleurs par Tibère, et puis Ponce Pilate, puis petit à petit, on réduit, c'est des gens de moins en moins importants, mais qui ont tous du pouvoir. Et à chaque échelon, finalement, de ce monde visible, tout est verrouillé par des gens qui ont du pouvoir et qui sont loin de Dieu. Et vous avez certes Anne et Caïphe, donc, qui sont grands prêtres, mais eux aussi sont des prêtres, disons, comme on va le voir, enfin, si vous lisez l'Évangile, qui sont très influencés par le politique, etc. Donc nous avons, même dans l'aspect religieux, tout est verrouillé dans cette société, tout échappe en apparence à la grâce de Dieu et à sa présence, à ce Christ qui va venir. Eh bien, dans notre société, moi je ne peux pas empêcher de penser, regardez nos politiques, regardez les médias, tout échappe à Dieu en apparence, tout est verrouillé. Des fois c'est très décourageant pour des membres d'église parce qu'on a l'impression de se battre contre du vent. Hein, vous avez un Da Vinci Code, vous avez après d'autres théories farfelues sur le Christ, vous avez des attaques en règle contre l'église, contre son enseignement, contre la Bible avec l'évangile de Judas qui a été présenté d'une manière complètement farfelue. Vous avez beaucoup, un évangile apocryphe, hein, dont j'ai parlé, là, au début de mon enregistrement. Eh bien, toutes ces choses-là, c'est décourageant parce qu'on a l'impression que le diable, hein, ce qui s'oppose à Dieu, cette force qui s'oppose à Dieu, a comme un haut-parleur, et nous, nous avons une voix enrouée. C'est l'impression que nous avons, donc notre message paraît inaudible. Et vous avez donc tout est dans ce monde, ces grandes ce monde qui sont là, qui verrouillent tout. Mais Dieu ici agit par Jean dans le désert. Il parcourt toute la région Jean du Jourdain, le Jourdain d'ailleurs qui veut dire qui descend. Donc c'est en profondeur, dans la discrétion, etc., dans l'intimité. Et il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Donc le message que nous avons, ça va être un message centré sur le Christ, qui invite les gens à une relation personnelle au Christ. Et comme on est pécheur, la première chose qu'il faut faire, la relation juste avec Dieu par le Christ, c'est d'accepter, à l'image de Jésus par rapport à son Père, de tout recevoir de Dieu. Et ça commence, pour nous qui sommes pécheurs, par le pardon. Le pardon, c'est la porte ouverte à recevoir les grâces de Dieu. Et c'est par ça que nous devons commencer. Et après, le prophète Isaïe montre que finalement, dans ce désert, il se passe quelque chose. Dans cette action discrète, eh bien, Dieu travaille, il aplanit, etc. Il prépare les choses pour la germination finale. Bon, ça nous rappelle la fin des temps. Eh bien, ne soyons pas découragés. Nos églises se vident, les médias, tout devient hostile, et puis la religion est de plus en plus ringardisée, etc. Mais ça n'a pas d'importance parce que c'est quelque chose de prévu et qui a déjà existé à l'époque de Jésus. Eh bien, soyons des gens baptisés dans notre église, faisons ce que nous avons à faire au quotidien par des gestes d'amour et de charité par rapport aux gens que nous croisons, et puis par notre intercession pour ces gens, pour qu'ils entendent le pardon de Dieu, et aimons-les dans la mesure du possible. Et avec Dieu, le possible va grandir si on lui demande de nous aider à aimer davantage notre prochain, comme en Philippiens chapitre 1, c'est une prière que Paul fait lui-même pour les Philippiens. Donc, ayons notre place, soyez, ne soyons pas découragés, même si nous avons l'impression d'une goutte d'eau dans la mer, dans cet océan hostile à Dieu, indifférent à Dieu, continuons notre travail de prière et d'amour et de témoignage en actes et éventuellement en paroles quand les choses s'y prêtent. Eh bien, surtout, ne baissons pas les bras. Ça me rappelle un autre récit de la Bible dans les Actes des Apôtres où c'est très flagrant. Vous avez en discrétion Paul qui, dans la prison, convertit le garde. Et puis après, la parole de Dieu fait son chemin dans les gens pauvres. Et puis vous avez les femmes qui s'étaient converties au judaïsme, des notables, qui sont influencées par certains chefs de synagogue et certains juifs. Et qui, du coup, eh bien, Paul va devoir quitter la ville où il avait commencé son travail de conversion en profondeur en commençant par les prisons, mais il n'empêche que la parole de Dieu se répandait. Donc vous voyez, vous avez ce travail en surface qui paraît du démon, si c'est ce démon, donc ce diable, qui est finalement une force personnelle qui s'oppose à Dieu. Eh bien vous avez ce travail qui paraît tout puissant, ce dragon hein, qui veut manger l'enfant dans Apocalypse 12, qui paraît démesuré, invincible, et eh bien c'est l'agneau qui va le vaincre, toujours pour reprendre une image de l'Apocalypse. Donc nous sommes un peu confrontés à cette bête, ce dragon qui a tellement de pouvoir, il a les médias, la politique, tout, quasiment tout. Eh bien, il est parfois même dans nos églises. Hein, quand on voit certaines choses, certaines prédications, certaines frilosités, on a l'impression que des fois, Anne et Caïphe aussi sont dans les églises. Eh bien, continuons le travail discrètement, de façon aimante et avec humilité. L'humilité, c'est savoir rester à sa place. Donc, c'est être juste, ajusté à Dieu. Donc, voilà. Et soyons convaincus que cette société qui paraît loin de Dieu, eh bien, tout paraît verrouillé, un peu comme dans la tour de Babel, c'est un passage que j'aime beaucoup. Eh bien, Dieu descend, hein, par l'intermédiaire de la tour de Babel, et ici c'est par l'intermédiaire du Christ, et il fait son travail. Et puis, vous savez, comme le mur de Berlin, comme tout ça, des choses qui paraissent complètement immuables finissent par s'écrouler comme un château de cartes tout d'un coup, une fois que le travail a été fait en soubassement. Hein, quand on veut faire sauter un château, eh bien, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on faisait? On creusait, si possible, en dessous et on faisait sauter les fondations. Enfin, au Moyen-Âge ou même plutôt un peu après, au début de la Renaissance et la Renaissance. Eh bien, c'est exactement ça. Dieu, si j'ose dire, fait un travail de sape avec sa grâce, mais un travail de sape positif, d'amour, de construction, si on veut. Il détruit ce qui est mal en nous, ce qui est pour faire germer ce qui est bien. Eh bien, ce travail est d'abord sous-jacent. Donc, nous, dans nos églises, n'ayons pas peur. Continuons le travail avec persévérance et humilité, avec beaucoup d'espérance. C'est le message de ce texte. Hein. Vous avez des Ponce Pilate, des Tibère, des Lysanias, des Caïphe et des Anne. Eh ben, c'est pas grave. Vous avez aussi Philippe, le frère d'Hérode. C'est pas grave parce que Dieu va faire effondrer tout ça comme un château de cartes. C'est pour ça que Jésus parle de la fin des temps comme d'un jour qui va arriver sans qu'on s'en doute pour ceux qui ne sont pas attentifs. Donc vous voyez, notre société, je dirais même, à l'image du Pharaon dans le livre de l'Exode, que plus il s'endurcissait, plus les plaies étaient sévères. Eh bien, plus je dirais que notre société paraît loin donc de Dieu, plus en fait il faut avoir espoir que Dieu travaille efficacement, parce que justement, en haut de l'iceberg, l'hostilité est le reflet d'un travail efficace en souterrain de Dieu, jusqu'à ce que tout s'effondre, parce que tout est prêt à s'ouvrir complètement à Dieu, les dernières résistances tombent. C'est ça la fin des temps. C'est important d'avoir, moi je ne sais pas quand elle se passera, mais ce que je sais, c'est que les fins des temps ont commencé avec la crucifixion du Christ, ça fait 2000 ans que ça travaille, et puis cette société qui paraît ne pas bouger, toujours hostile à Dieu, va s'effondrer, et ça sera le retour du Christ. Et puis, pensons aussi, toujours dans l'interprétation analogique, à la mort. Eh bien, finalement, toute notre vie, c'est un petit peu ce travail dans le désert. Nous avons l'impression d'être dans des déserts. Et Dieu travaille dans notre vie pour nous configurer, pour nous préparer à ce que sera notre vie au ciel. Et finalement, ces fossés complètement aplanis et le salut de Dieu, hein, tout le monde, c'est dit dans le texte, et tout homme verra le salut de Dieu. Eh bien, ça, c'est finalement quand on va arriver face à face avec notre Sauveur, notre Rédempteur. La mort est une libération. Vous voyez, cette terre, c'est un travail. Voilà, on est dans l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, etc. Il y a des choses qui nous ramènent toujours. Finalement, la vie telle qu'elle est organisée par les hommes est faite pour nous ramener la tête dans le sable, surtout pas lever les yeux au ciel. Donc nous sommes toujours en lutte pour donner une place à Dieu dans notre vie, comme j'ai dit, une place qui devrait lui revenir, lui qui veut s'incarner dans nos vies. Et puis il y a d'un autre côté ce tiraillement parce que nous sommes occupés par les soucis, les factures, le travail, etc. Eh bien, Dieu, si nous avons des temps de prière comme il faut, eh bien, Dieu travaille par ces temps de prière et continue à travailler pour petit à petit nous rendre de plus en plus spirituels et donc de plus en plus aimants aussi concrètement sur cette terre. mais disons, de nous rendre de plus en plus spirituels dans le sens où il nous rend de plus en plus réceptifs à sa présence en son Fils, eh bien, petit à petit, donc, Dieu nous prépare jusqu'à ce que nous soyons mûrs, et finalement, une fois que nous passerons de l'autre côté, ça sera non plus une rupture, finalement, mais une continuation. Alors certes, il y aura rupture parce que tout va s'éclairer, mais ce sera fondamentalement une continuation. Donc, c'est important. Et je veux dire par là aussi que quand nous prions pour nos frères, eh bien, soyons assurés que notre travail, que par notre prière et notre amour, notre témoignage en acte d'abord, et par la prière, et puis éventuellement en parole, eh bien, tout ça a un impact, même si ça ne se voit pas, jusque tout s'effondre à la mort. Et à la mort, ça sera pour ceux pour qui nous avons prié, pour ceux que nous avons aimés, eh bien, toutes nos prières auront leur poids, tous nos actes de charité auront leur poids quand ils verront leur Dieu pour que ses frères pour qui nous avons tellement prié, s'ils n'ont pas eu le bonheur de se convertir avant la mort, puissent enfin lui dire oui en le voyant. Vous voyez, soyons convaincus. Ce texte nous dit, eh bien, moi je travaille, etc., comme Jean-Baptiste, fais ton travail, prie, prêche dans le désert, hein, agis, prie, et tu n'as pas l'impression que quelque chose se passe chez ton frère, ça n'est pas important. Parce que tout homme verra le salut de Dieu. Si tu pries, si tu l'aimes, tu prépares sa grande rencontre avec Jésus son Rédempteur à la fin de son temps à lui, qui est sa mort et sa résurrection. Et puis, il y a une interprétation, celle que j'aime beaucoup, qui est l'interprétation dite tropologique, c'est-à-dire centrée sur l'intérieur et sur la vie quotidienne. Alors là, je voudrais donc, pour cette interprétation, reprendre un peu le texte. Alors je disais, vous avez finalement l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, et puis tous ces grands, c'est un petit peu la conscience. Prenons d'abord par rapport à nos frères qui sont loin de Dieu. Ils ont leur vie, eh bien, tout paraît verrouillé, tout paraît centré sur le visible, et Dieu a aucune place. Et nous, par rapport à ces frères qui sont loin de Dieu, hein, qui ont leur empereur Tibère, leur Ponce Pilate, leur Lysanias, leur prince d'Abilène, donc ils ne savent pas toujours où ils vont, ils sont perdus d'œil à la fois, ils chassent la tristesse, tous ces gens donc, qui ont tout verrouillé, qui sont d'une indifférence à Dieu, aussi du fait que notre société verrouille les portes à Dieu, hein, eh bien, ces gens, nous sommes appelés, nous, à épouser ce que fait Jean, ici la préfiguration du Christ, travailler dans le désert. Hein, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. La parole de Dieu travaille dans le désert. Alors comment pouvons-nous prêcher cette parole de Dieu à des gens qui sont fermés, indifférents, etc. Eh bien, comme Jean, le désert, c'est le symbole de la prière et de l'univers invisible dans lequel travaille Dieu. C'est-à-dire, finalement, la force la plus invisible qui soit, mais qui débouche sur après des résultats ô combien visibles, c'est l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui ne se voit pas, qui se voit par ses fruits. Mais c'est une force, si vous voulez, invisible, qui se traduit par ses fruits. Eh bien, nous sommes appelés, nous, par la prière et l'amour, à agir, finalement, dans ce désert. C'est notre désert. Avoir recours aux armes de la prière et de l'amour, plutôt que des choses exubérantes, ou la force, etc., ou le découragement, ou etc. Nous devons avoir conscience de ça. Et notre Église aussi. Prions pour notre Église, parce que notre Église, si elle veut ramener des gens au Christ, certes, il faut des moyens audiovisuels, tout ça, c'est important, parce qu'il faut essayer d'avoir des brèches dans ce monde, notamment des multimédias, qui est fermé à Dieu. Vraiment, je ne ferai pas ce site internet. Mais c'est d'abord la prière qui compte. Une Église priante est une Église efficace. Et parce qu'elle devient aussi aimante à la mesure de la fréquentation qu'elle a avec son Dieu. Et après, les moyens, disons, humains, audiovisuels et tout ce qu'on veut, ne sont que finalement un prolongement de cette prière et de cet amour. Mais si ça vient en premier, comme on a des fois l'impression, ça reste vide. Donc nous sommes appelés à prêcher dans le désert. Désert, ce symbole des armes de Dieu, qu'on décrit aussi bien dans Éphésiens 6. On décrit les armes spirituelles qu'il nous faut pour vaincre le démon. Eh bien, nous sommes appelés, nous, à parcourir dans toute la région du Jourdain. Donc, le Jourdain, ça descend. Vous voyez, en fait, si vous regardez sur une carte tous ces pays dont on cite, ils sont tous limitrophes d'Israël. Bon, la Galilée, c'est déjà le nord, mais c'est pas tout à fait considéré comme Israël. Vous avez la Judée, mais vous avez Iturée, Traconidite. Ce sont des pays limitrophes, vous avez Rome qui englobe tout. Eh bien, le Jourdain, cette espèce de frontière qui descend. Eh bien, nous sommes à la frontière entre le pays d'Israël, le pays élu, et puis ce monde qui est loin de Dieu. Eh bien, nous sommes appelés à descendre, comme le Jourdain, comme Jean-Baptiste, Nous sommes appelés à voir le cœur, dans le cœur. Nous sommes appelés à travailler dans le cœur de nos frères. Mais comment peut-on faire? On ne peut travailler dans le cœur de nos frères qu'en laissant Dieu le faire. Et on ne peut aider ce travail de Dieu qui lui seul peut travailler dans le cœur de nos frères en priant. Notre prière, notre intercession, c'est ce qui va, c'est notre coup de pouce à la grâce de Dieu. C'est notre liberté humaine que nous mettons au service de Dieu, comme le dit Paul, il complète dans sa chair les souffrances qu'il manquait au Christ. Quand nous prions pour une personne, nous actualisons, si on veut, l'incarnation du Christ pour cette personne. Parce que nous rendons le Christ présent dans son cœur, même si c'est dans l'invisible. Hein. Vous voyez, comme il dit, il proclame un baptême de conversion, donc par notre prière, excusez-moi, mais quand on prie pour quelqu'un, nous devons demander sa conversion, en demandant qu'il se repente. Qu'il prenne conscience qu'il était loin de son Dieu et que Dieu l'aime et qu'il a eu bien peu de gratitude. Donc notre prière doit être toujours axée, pas d'abord sur une guérison physique, pas sur le fait qu'il ait plus d'argent, qu'il soit heureux avec sa femme, etc., s'il dispute, mais sur sa conversion. C'est bien le message. C'est, si on ne prie pas pour ces choses-là, eh bien vous avez bien peu de chances d'être exaucé. Tout doit être axé sur le message du baptême de conversion pour le pardon des péchés. Prions pour la conversion de nos frères, pour qu'ils sachent se retourner, ça le pardon, la conversion, se retourner vers Dieu. C'est vraiment ça que nous sommes appelés à faire dans notre prière. Et si nous devons prêcher un message, c'est aussi celui que nous devons avoir en premier, la relation avec Dieu. Tout doit être centré sur Dieu et sur le pardon des péchés, sur la conversion, c'est-à-dire faire un retournement pour que Dieu puisse enfin s'incarner dans nos vies et qu'il ait la place qui lui revient. Et finalement, le pardon, c'est aussi prier pour nos frères. C'est aussi prier et témoigner, si on a l'occasion en parole, pour dire qu'il faut finalement le pardon, c'est le premier acte de notre vie en Jésus-Christ, parce que le Christ, finalement, toute sa vie dans la Trinité, c'est de s'ouvrir tout grand à la grâce de Dieu pour vivre de sa grâce et l'aimer en retour. Nous sommes appelés à faire exactement la même chose. Mais comme nous sommes pécheurs, ça doit commencer par le pardon. Et ça continuera toujours par le pardon, parce que nous sommes constamment pécheurs. C'est de se mettre petit devant Dieu pour nous laisser aimer par lui. Et c'est ça qui conduit à la réelle conversion, parce que là, notre vie va changer par gratitude. C'est ce que dit Paul, finalement, nous sommes sauvés par la grâce, mais il y a aussi les œuvres. Mais les œuvres sont le fruit de notre gratitude par rapport à l'amour gratuit de Dieu. Et c'est comme ça que nous travaillerons en coopération avec Dieu. Et nous travaillerons avec lui, et pas pour lui. Enfin, je veux dire, on travaille pour lui aussi quand on travaille avec lui. Mais si on travaille pour lui sans travailler avec lui, ça devient de l'activisme. Et finalement, on fait des choses parfois un peu spectaculaires dans le quotidien, dans les gestes de tous les jours. Eh bien, Dieu est loin. Et on fait plus de contre-témoignages qu'autre chose. Il faut apprendre à travailler dans les petites choses, comme Jean-Baptiste dans le désert. Pas tout de suite vouloir aller frapper à la porte de Tibère. Alors, vous voyez, il faut accepter de travailler avec Dieu d'abord dans le cœur de l'humanité par notre prière, notre témoignage d'amour, etc. Parce que l'amour touche les cœurs, parce que l'amour et la prière c'est un, parce que Dieu est amour. Donc si l'on prie et l'on aime, on permet à Dieu, à sa force d'agir par notre liberté humaine. Parce que Dieu, comme il est amour, il travaille, il aime, mais il faut que ça passe par la liberté. Donc nous, humains, comme Paul, nous sommes un surcroît d'actualisation des souffrances du Christ. Je crois qu'il dit ça dans l'épître aux Éphésiens, eh bien ça, c'est, nous le faisons quand nous donnons notre liberté, quand nous prions pour quelqu'un, nous offrons finalement un homme pris pour un autre homme, donc c'est l'amour libre qui agit, et donc comme Dieu, c'est cet amour libre qui agit, eh bien Dieu agit dans le cœur de nos frères. Donc prions pour nos frères, parce que c'est comme ça que nous toucherons leur cœur, c'est comme ça que nous accompagnerons la grâce de Dieu, qui seul peut avoir un impact, une influence sur le cœur. Donc, et j'aime beaucoup ça parce que ne soyons pas découragés, parce que quand nous prions pour nos frères, pour leur conversion, quand nous les aimons, eh bien parfois nous avons l'impression que c'est toujours l'an 15 de Tibère, que tout est en place et que rien ne se passe. Mais la parole de Dieu nous dit, hein, cette citation du prophète Isaïe au chapitre 40, versets 3 à 5, hein, à travers le désert une voix crie, donc nous on a l'impression des fois de prêcher dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, voilà le travail de Dieu. Quand on prie pour nos frères et on les aime, eh bien nous aplanissons la route parce que la grâce arrive, nous accompagnons cette grâce et cette grâce, elle prépare le chemin de Dieu, elle prépare la prise de conscience que les gens auront à leur conversion et parfois ça sera même après la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout ravin sera comblé, voilà le travail de la grâce. Ce travail qui nous paraît complètement invisible, mais au sens négatif, c'est-à-dire on a l'impression qu'il ne se passe rien. eh bien, que ce soit dans notre monde, dans le cœur de nos frères, n'ayons pas peur, parce que la grâce de Dieu, voilà ce qu'elle fait. Elle comble d'abord les ravins, toutes les montagnes et les collines seront abaissées, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose de bien plat pour que la grâce puisse bien placer, on prépare le chemin de Jésus, les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et enfin, quand tout ce travail de soubassement, de préparation, d'aplanissement sera fait, dans le cœur de l'inconscient de nos frères, parce que c'est là que ça se passe d'abord, eh bien, tout homme verra le salut de Dieu. Quelle promesse! Avec cette promesse, vous rendez compte de la responsabilité que l'on a quand on ne prie pas pour la conversion de quelqu'un, quand on refuse un acte de charité par rapport à quelqu'un, surtout si c'est pour une personne pour qui nous prions, car cette charité fait un avec notre prière, elle dynamise l'exaucement de notre prière aussi. Eh bien, charité, amour donc, et intercession pour nos frères, l'intercession c'est d'ailleurs l'amour gratuit par excellence, eh bien tout ça, quand nous ne faisons pas ça, eh bien, au lieu d'accompagner ce travail de la grâce, de Dieu, eh bien, c'est comme si nous mettions des obstacles. Nous avons donc cette responsabilité de Jean-Baptiste de prier, de prêcher dans le désert pour que la grâce de Dieu puisse faire son effet, pour que tout homme voit le salut. Donc ne soyons pas découragés, mes frères, ne soyons pas découragés quand nous voulons la conversion d'une personne. Continuons à prier, même si en apparence rien ne se passe. Souvenez-vous de ce passage d'Isaïe. Il y a d'abord ce travail dans l'inconscient, dans l'invisible du cœur, comme Dieu travaille dans l'invisible de notre société, hein, l'interprétation anagogique des fins des temps, il travaille aussi dans l'invisible des cœurs, et dans cet invisible, regardez tout le travail qui se fait, les collines sont abaissées, les ravins sont comblés, les routes sont aplanies, il en faut du temps parfois pour que les obstacles tombent un à un dans le cœur de nos frères. Eh bien, soyons sûrs que chaque fois que nous prions pour eux, eh bien, tout ça se fait. Chaque fois que nous les mettons devant Dieu par notre intercession pour eux, eh bien, nous les exposons à cette grâce de Dieu qui travaille. C'est comme si nous appelions les ouvriers pour continuer. Hein. Nous avons une colline et tout. Chaque fois que nous prions, nous faisons venir le camion, si j'ose dire, qui continue son travail d'aplanissement, etc. Donc, nous, quand nous prions, eh bien, c'est la grâce de Dieu qui travaille en nos frères. Donc, ne nous décourageons pas. Surtout, soyons persévérants, c'est important. Et même si ces frères pour qui nous prions eh bien, meurent sans en apparence avoir rencontré Dieu, souvenons-nous que tout homme verra le salut de Dieu. Hein, c'est-à-dire que si nous avons prié pour eux, si nous les avons aimés, ça peut avoir un impact de l'autre côté pour que pleinement et librement, eh bien, ils disent oui, parce que le chemin aura été creusé pendant toute sa vie grâce à nos prières, grâce à notre amour, grâce à notre témoignage. De même, si nous témoignons en parole, parfois nous avons l'impression qu'il faut le faire, et il faut le faire quand vraiment nous en avons l'intuition guidée par l'esprit, nous avons parfois l'impression que ce que nous avons dit n'a pas d'impact. Ben, parfois ça peut être des années plus tard que des paroles reviennent ou que ça a un impact. N'ayons pas peur. Moi, à ma conversion, j'ai des choses qui me sont revenues en mémoire. Ma mère m'a raconté l'histoire dans l'Ancien Testament quand j'étais en primaire. Après je m'en souvenais plus, il a fallu attendre l'âge de 17 ans pour que je me souvienne de certains passages que ma mère m'avait lus. Mais la grâce travaillait, les passages tortueux sont devenus droits, les routes, bon il y a encore du chemin hein, je veux dire, mais enfin les routes déformées sont aplanies, etc. Donc toujours, même si nous témoignons, toujours prions après pour que l'esprit fasse ce travail, appuie ce que nous avons dit ou appuie chaque acte de charité que nous avons fait au nom du Christ, parce que c'est dans le temps que Dieu travaille, c'est dans l'invisible du cœur. Nous sommes tous des Jean-Baptiste prêchant dans le désert. C'est comme ça que la parole de Dieu est adressée. Et enfin, prenons un peu aussi cette interprétation anthropologique par rapport à nous-mêmes. Parce que nous avons parfois aussi l'impression que dans notre vie, des choses sont verrouillées, sont fermées à Dieu. Nous n'arrivons pas à nous ouvrir. Nous retombons dans les mêmes défauts ou la même déprime. Et nous avons comme ces Tibère, ces Philippe, ces Ponce Pilate qui sont là et tout est verrouillé. Eh bien pareil, Dieu agit par Jean. C'est-à-dire par cette grâce, hein, cette préfiguration du Christ. Le Christ s'incarne, il vient dans nos déserts. Eh bien, soyons-en convaincus, il va parcourir notre Jourdain, notre inconscient. Il va aller jusqu'au plus profond de nous-mêmes pour aplanir la route, pour combler les ravins. Eh bien, même si nous retombons dans les mêmes travers, même si nous avons les mêmes tristesses, même si en apparence rien ne change, le travail de Dieu continue et avec le temps, quand tout sera prêt, les chemins aplanis, les collines abaissées, eh bien, nous verrons le salut. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça peut se faire très brusquement, après des années où rien ne s'est passé. Mais nous avons prié avec persévérance, nous avons demandé pardon, nous avons essayé de faire des efforts pour accompagner, parce que quand je disais aimer nos frères pour accompagner notre intercession, nos efforts, c'est un petit peu la même chose, ça accompagne notre prière. Mais sachons que nos efforts ne sont qu'une aide à la prière et que malgré nos efforts, si nous chutons, ce n'est pas grave, il faut continuer parce que la prière agit. Hein. C'est ce travail dont je parlais, des collines abaissées, etc., les chemins aplatis qui vont devenir droits. Donc Dieu corrige, il faut du temps, de la patience, c'est le mot-clé pour nos frères et pour nous-mêmes. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup de foi, car l'amour et la foi vont ensemble, ne s'opposent pas. Plus nous avons la foi, plus nous aurons de patience et d'amour, parce que nous saurons qu'il faut regarder au-delà, pardon, des apparences, au-delà de ce Tibère, de ces Lysanias, de ce Ponce Pilate, de ces grands prêtres. Au-delà de ce monde, il faut regarder à l'invisible, ce qui se passe donc dans les cieux, c'est notre véritable patrie, mais aussi dans les cœurs, hein, interprétation anagogique et tropologique. Eh bien, soyons convaincus que si nous avons ce regard, eh bien, effectivement, nous serons plus patients avec nos frères ou vis-à-vis de nous-mêmes, et au lieu de nous décourager, eh bien, nous aurons plus d'entrain pour nos efforts quand il s'agit de nos propres vies, ou pour aimer nos frères, malgré leur peu d'empressement à changer, si vous voulez. Eh bien, vous voyez comme la foi peut aider et l'espérance à mieux aimer parce qu'elle nous apprend la patience. Donc, je reviens à notre vie, soyons patients, et je dis, ça peut arriver, ça peut prendre du temps, et puis tout d'un coup, eh bien, nous verrons que quand les choses auront mûri, ben, les défauts que nous avions ben, vont disparaître, ou alors la tristesse va se transformer en joie. Mais il faudra peut-être du temps, parce que Dieu agit, parce que Dieu veut agir lentement mais sûrement, parce que Dieu veut briser... dans nos cœurs tous les obstacles pour que librement, consciemment et inconsciemment, que tout dans notre être puisse dire oui à Dieu. Que tous les ravins, que tout soit comblé, que tout soit abaissé, que tout soit redressé. Parce que si Dieu agit, si Dieu agissait à la va-vite comme ça dans nos vies, etc., mais où serait notre liberté? Et nous ne pourrions pas adhérer en profondeur. Vous voyez, Dieu agit en profondeur. C'est pour ça aussi que parfois il faut toute une vie pour être prêt. Hein, et encore, parfois l'Église dit même qu'il y a le purgatoire. Il faut beaucoup de temps pour se préparer à cette venue du Christ. Donc, mais, disons, si nous regardons simplement la vision anthropologique, notre tristesse, nos défauts ne sont pas inéluctables, ne sont pas, disons, indéboulonnables. Hein. Continuons à prier, sachant que la grâce de Dieu fait son effet. C'est important parce que Jésus dit qu'il faut s'aimer soi-même. Mais c'est ça, s'aimer soi-même. Quand nous péchons, bien sûr, nous sommes tristes et nous devons demander pardon à Dieu. Mais cette demande de pardon, c'est déjà une demande de confiance parce que nous savons que la grâce de Dieu a travaillé et continue à travailler. C'est simplement Dieu qui a plané le chemin et remercions-le de son pardon, c'est-à-dire de son travail qui continue malgré nos erreurs, malgré les obstacles que nous avons mis. Dieu continue à planir. C'est toute la dimension du pardon. Eh bien, quand nous avons cette idée en tête, bien loin de nous décourager et d'avoir un dégoût de nous-mêmes, quand nous péchons, quand nous retombons, eh bien, nous sommes encouragés à dire, eh bien, je vais continuer parce que c'est un accident de parcours seulement. Et de même, dans nos tristesses, etc., n'ayons pas peur, c'est un état qui n'est pas appelé à durer. Après la croix, il y a la résurrection. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez, l'interprétation traditionnelle de l'Église, elle est très riche et elle fait, elle donne à un texte de la Bible les diverses couleurs de l'arc-en-ciel. C'est d'ailleurs sur mon site, je ne saurais trop vous encourager à aller voir. Il y a un enregistrement, il y a des pages qui sont destinées à vous apprendre un petit peu à lire la Bible avec ces quatre interprétations littérales ou historiques, allégoriques, tropologiques ou morales et anagogiques. Vous verrez que ça va complètement changer votre vision des Écritures. Et enfin, pour terminer, je ferai remarquer tout de même que ce qui éclaire singulièrement le travail de Jean-Baptiste, ce qui donne un sens à ce que fait Jean, c'est tout simplement cette citation de l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, le travail des apôtres, c'est en citant les Écritures que l'on commence à comprendre ce qui se passe vraiment en profondeur. C'est tout le rôle de la parole de Dieu. Quiconque lit la Bible, surtout avec les interprétations que je viens de donner, dans un esprit de prière, c'est comme s'il ouvrait sa fenêtre sur l'invisible, le monde de Dieu, le monde de la grâce. Et alors, plus nous lirons la Bible, dans un esprit de prière avec ses interprétations spirituelles, plus vraiment nous allons devenir spirituels et nous verrons où sont les véritables combats, comme nous dit Paul au chapitre 6 d'Éphésiens. Nous commençons à comprendre que le monde visible n'est que le résultat ou le reflet, la surface de l'iceberg de tout, de plein de choses qui se passent dans l'invisible, dans comment dire, le bas de l'iceberg, dans le fond de l'iceberg. Vous voyez, eh bien, c'est là que ça se passe. Alors on comprend très vite que si, à mesure qu'on est la parole de Dieu, on comprend que les choses se passent d'abord dans le fond des cœurs, dans l'invisible du ciel, alors évidemment nos actions prendront un relief différent parce qu'elles s'inscriront dans un esprit de prière et nous travaillerons avec le Christ et pour lui, mais aussi avec lui, et pas simplement en ayant l'impression de travailler pour lui et de dire Seigneur, Seigneur, mais pas de faire la volonté du Père, parce que pour faire la volonté du Père il faut vivre avec le Christ, hein, c'est ce que dit le Christ dans Saint Jean, hein, c'est par lui que nous allons au Père. Donc essayons de vivre avec ce Christ qui est vraiment notre modèle, celui qui est le tout ouvert à la grâce du Père. Eh bien, travaillons avec lui et vous verrez que vraiment, vous aurez l'impression de travailler de plus en plus pour lui. Mais il faut d'abord être avec lui. C'est ça la conversion. Et ça, la clé, c'est de lire la Bible. La Bible, c'est ce livre ouvert sur le ciel. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment voulez-vous avoir la tête, disons, centré vers Dieu? C'est le livre qui parle de Dieu par excellence. Donc la parole de Dieu, elle doit être méditée et reméditée. C'est comme ça que petit à petit, eh bien, les chemins vont être aplanis, tout va être redressé. Je ne saurais trop vous encourager, oui, toi mon frère internaute, à lire la Bible dans un esprit de prière. Priez et lisez la Bible, la parole de Dieu, avec quelques clés d'interprétation. Et vous verrez que les choses vont beaucoup changer. Et que au fur et à mesure de votre changement intérieur, d'ailleurs, les choses vont changer aussi au niveau extérieur. C'est tout le sens de Jean-Baptiste. Parce que regardez quand même, Jésus a commencé vraiment très discrètement, Jean-Baptiste aussi, et l'Empire romain a chuté et est devenu chrétien. Malheureusement, l'Église, après, elle s'est laissée engluer dans le visible, elle a perdu sa vision de l'invisible, et alors il y a eu le pouvoir politique, etc. Mais il y a une leçon à retenir, c'est que l'Église, maintenant, elle reconduit par le même chemin. Maintenant, l'Église perd son pouvoir, disons, temporel, visible, pour se recentrer sur l'invisible. La différence, c'est que elle a déjà connu l'erreur, et j'espère qu'elle ne retombera pas dans la même. Ça peut être, d'ailleurs, un des signes de la fin des temps. Cette Église qui redevient pauvre parmi les pauvres, pour enfin accueillir le Christ pour son retour définitif. Eh bien, nous sommes appelés, nous, aussi, à faire ce travail de pauvreté, de prière, etc. Donc plus nous changerons, c'est ça le message. Dieu change de l'intérieur et c'est de l'intérieur qu'après les choses changent à l'extérieur. C'est normal, c'est ça toute la liberté humaine, c'est ça l'amour. C'est d'abord le cœur et puis après du cœur déborde l'amour. Eh bien c'est tout ce message. C'est pour ça que nous prions pour nos frères, que nous prions aussi pour nous-mêmes, pour que Dieu travaille d'abord en nous, que Dieu travaille d'abord dans les soubassements de notre société. C'est par l'amour que Dieu travaille pour enfin après déborder par les fruits de son amour. Eh bien, ça c'est la Bible qui nous l'apprend. C'est en la lisant, en la méditant, en nous mettant en contact de Jésus par sa parole, que nous aussi commencerons à mieux lire les signes dans notre vie, à mieux aimer nos frères avec plus de patience, parce que nous serons regardés au-delà de l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, etc., au-delà de toutes ces choses qui s'opposent à Dieu dans le monde visible. Et alors nous apprendrons la patience, la foi et l'amour. Voilà, c'est là-dessus que je voulais conclure. Eh bien, maintenant mes frères, je vous propose de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Ô Seigneur, viens Seigneur dans nos vies. D'abord nous te demandons pardon pour tous nos manquements et fort de ce pardon nous sommes convaincus Seigneur que tu travailles en nous. Alors vraiment merci, merci d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité envers nous-mêmes et envers nos frères. Oui Seigneur, apprends-nous à regarder avec les yeux que ta parole nous enseigne que tout se passe d'abord dans l'intérieur, dans l'invisible, pour déborder sur le visible. Alors aide-nous à ne pas nous arrêter sur les choses visibles, mais à regarder au-delà des apparences. Et pour cela, Seigneur, fais Fais de nous toujours davantage des êtres de prière, des êtres des méditateurs, si j'ose dire, de ta parole. Et fort de cette conviction, nous prions pour nos frères et pour toutes les zones d'ombre encore qui ne sont pas sous l'incarnation du Christ dans nos vies. Oui, nous prions pour notre conversion et celle de nos frères. Et Seigneur, nous prions maintenant aussi pour notre société, que malgré, Seigneur, tout ce qui s'oppose à toi et qui paraît comme un dragon devant toi, l'agneau, eh bien nous ne baissions pas les bras et que nous sachions prendre notre place dans l'Église et dans ce monde par un témoignage toujours fervent et par une prière qui ne se décourage pas. Oui, apprends-nous la persévérance et la patience. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.